Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Ravie de repartir avec vous en vadrouille. Jusqu'à 14h, on va rencontrer des hommes et des femmes qui se mobilisent. Et parfois, ils sont bien jeunes. C'est le cas de ces lycéens qui descendent dans les rues de Bruxelles chaque jeudi depuis quelques semaines. Ils sont chauds.
Plus chaud que le climat.
En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux en Europe, ces jeunes, à bousculer les adultes pour que la lutte contre le réchauffement climatique devienne prioritaire. On part à leur rencontre à Bruxelles dès le début de ces carnets. On rencontrera aussi des adultes engagés à Berlin cette fois, des locataires qui se regroupent pour devenir leur propre fournisseur d'électricité. Les projets de particuliers se multiplient en Allemagne. On entendra des Espagnols engagés en politique, ceux-là, des militants du parti d'extrême droite Vox, un petit parti qui monte en Espagne. Pourquoi et qui sont-ils ? Je vous emmènerai ensuite à Louxor, en Égypte, où une femme engagée auprès de la population locale a créé une école de tailleurs de pierre. Ça fait du boulot pour les Égyptiens avec tous les sites archéologiques du coin. Nicolas Caro nous proposera le roman d'une Britannique, engagée elle aussi, féministe. Quant à Joseph, il nous fera découvrir des lieux abandonnés et pourtant chargés d'histoire. Les carnets sont ouverts, direction la Belgique. Ils sont encore adolescents et déjà un peu des grandes personnes. C'est une génération qui subira, c'est sûr, les effets du dérèglement climatique et qui trouve que les adultes parlent beaucoup mais ne font pas grand-chose. À l'image de Greta Thunberg, cette Suédoise de 16 ans qui avait marqué la COP24 en décembre dernier en Pologne en interpellant les dirigeants du monde. Cette semaine, rebelote, elle était à Davos, en Suisse. Arrivée de Stockholm après 32 heures de train, pour être cohérente avec son combat, elle ne prend plus l'avion. Greta avait caché ses longues nattes sous un bonnet et une écharpe pour interpeller les dirigeants réunis pour le Forum économique mondial.
Certains disent qu'on ne fait pas assez pour combattre le changement climatique. Mais ce n'est pas vrai. Parce que pour ne pas faire assez, il faudrait déjà qu'on fasse quelque chose. Et la vérité, c'est que fondamentalement, on ne fait rien. Il y a des gens, en particulier des compagnies, des décideurs, qui savent exactement quelle valeur inestimable ils sacrifient pour continuer à gagner des sommes inimaginables. Je veux mettre au défi ces compagnies et ces décideurs de mettre en œuvre de vraies actions audacieuses pour le climat. De mettre leurs objectifs économiques de côté pour sauvegarder les futures conditions de vie de l'humanité. Je ne crois pas une seconde que vous allez relever ce défi. Mais je voudrais quand même quelque chose. Je vous demande de me prouver que j'ai tort. Pour l'amour de vos enfants, pour l'amour de vos petits-enfants. Pour l'amour de la vie et de cette magnifique planète. Je vous demande de vous placer du bon côté de l'histoire.
Voilà, vidéo postée par les organisateurs du Forum de Davos. Depuis la rentrée scolaire fin août, une journée par semaine, Greta Thunberg fait la grève scolaire pour le climat. Elle va se planter devant le Parlement suédois avec sa pancarte et continuera, dit-elle, tant que la Suède ne remplira pas ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et depuis quelques semaines, elle est imitée par d'autres lycéens qui se mobilisent en Europe. C'est le cas notamment à Bruxelles, où les jeunes prennent la rue tous les jeudis. Écoutez ce reportage d'Isabelle Horry auprès de ces jeunes qui étonnent par leur maturité.
Il fait pourtant froid à Bruxelles, la neige s'accroche au trottoir. Mais les collégiens et les lycéens, eux, sont pleins d'énergie. Bruxellois, flamands, wallons se sont donné rendez-vous devant la gare centrale de la capitale belge. Adélaïde fait partie du comité d'organisation. Elle défend l'idée de défiler un jour d'école.
C'est venu avec le fait qu'on ait déjà essayé de venir manifester en dimanche. 75 000 personnes le 2 décembre. Seulement, qu'est-ce qui se passe ? Deux jours plus tard, la Belgique ne signe pas l'accord en Europe. Donc on comprend qu'il n'y a pas de changement et qu'ils n'ont pas compris ce qu'on voulait. Du coup, on est venu aujourd'hui et tous les jeudis, on viendra parce qu'il faut désobéir pour qu'ils nous entendent. La première manifestation en jeudi, 3000 personnes, a fait plus parler le Parlement que notre manifestation en dimanche de 75 000 personnes.
Dans la foule, certains sont maquillés, d'autres ont plutôt laissé leur créativité s'exprimer sur une pancarte, comme Antoine par exemple.
Il est écrit donc « No problem for the Titanic in 2019 ».
Et en français ?
Pas de problème pour le Titanic en 2019, vu qu'il n'y a plus de banquise. America!
Un peu plus loin, une jeune fille brandit un « Je préfère perdre ma virginité que ma planète ». Il y a aussi « Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite ?» Et Belgique oblige un « Tu sauves la terre, tu sauves la bière » pour rappeler quelques fondamentaux. Au-delà de l'humour, ceux qui ont séché l'école pour battre le pavé ont souvent bien réfléchi à ce qui devait changer, comme Lucas et Clara, élèves de terminale.
Récemment, on a vu au Luxembourg avec les transports en commun gratuits, c'est une avancée incroyable et j'espère que beaucoup de pays vont suivre ce progrès. C'est fantastique au Luxembourg, mais franchement, ici, on en est loin et voilà.
C'est bien de vouloir réduire sa pollution en allant à pied ou en prenant une gourde, mais les multinationales, elles n'ont aucune loi et elles n'ont presque aucune restriction et nous, on veut que ça change, quoi.
Pour les plus jeunes, c'est la première manifestation de leur vie. Jennifer, à 15 ans, elle a dû convaincre ses parents.
D'abord, ils ne me laissaient pas aller, mes parents, parce que j'avais l'école et tout. Mais je leur ai dit que c'était super important, parce que si personne n'y va, le monde ne va jamais changer et tout. Du coup, ils m'ont dit oui, ok, mais alors faut pas que ça soit tous les jeudis, parce que j'ai quand même cours et voilà.
Sa copine, Éléonore, elle, a eu tout de suite le soutien des siens. D'ailleurs, dans la famille, c'est bien elle qui montre l'exemple.
Ils vont faire des efforts avec moi à la maison pour changer ça. On va faire les composts, on va mieux trier les poubelles, ce genre de choses-là, réutiliser les bouteilles. Et ils m'ont dit qu'ils feraient plus d'efforts, et aussi pour les transports en commun. Ma mère, elle va tous les jours en voiture, et je lui ai proposé d'aller en train ou de bus, des trucs comme ça. Elle a dit qu'elle essayerait, ouais.
Première manifestation, mais aussi bien souvent première désobéissance face au système. C'est important pour Marc d'être là, mais il s'inquiète un peu quand même.
Notre prof de maths nous a dit que c'était pas un problème, mais après on sait pas le reste. On sait pas nos proviseurs. J'espère que ça va pas leur poser de problème, sinon ça va poser des problèmes à moi aussi du coup. Vu qu'il y en a qui peuvent pas y aller à cause de leurs parents, eh ben, on va demander des photos des cours et tout ça. Du coup on va savoir se remettre en ordre.
Selon les écoles, l'attitude a été plus ou moins bienveillante. Certains ont été encouragés, d'autres moins. Mais dans le cortège, il y a aussi quelques profs, comme Mathieu et Johan. Ils ne sont pas là pour encadrer, mais bien pour soutenir leurs élèves psychologiquement.
Moi, je suis surpris d'abord, parce que j'imaginais pas il y a un mois qu'un mouvement comme ça pouvait se créer et prendre une telle ampleur, et aussi sur le mode de communication, quoi. Moi, jusqu'à jeudi dernier, j'avais pas conscience de la mise en place de ce mouvement, parce que tout se fait par Facebook, par leurs canaux à eux, quoi. Et là, maintenant, voilà, ça explose et je pense que ça va faire que croître comme ça, de semaine en semaine, quoi.
Quand on nous demande de leur inculquer des valeurs citoyennes et qu'en même temps on leur dit vous ne pouvez pas venir, où est la cohérence là-dedans? Quand on dit oui, la jeunesse aujourd'hui ne s'indigne plus, n'est plus concernée, ils sont devant leur smartphone, eh ben non, ils sont là, ils sont présents et ils se font entendre.
Alors que le cortège passe dans les rues du centre de Bruxelles, des hommes et des femmes aux cheveux blancs applaudissent depuis le trottoir. Françoise est membre de l'association des grands-parents pour le climat.
Encourager les jeunes, c'est leur manifestation, mais nous sommes là en solidarité. C'est vraiment génial. Bon, maintenant, on espère que nos édiles politiques vont entendre, parce que là, vraiment, il y a beaucoup de monde et qu'ils ne vont pas se contenter de dire qu'ils rentrent dans leur classe. On est avec eux.
Ils étaient 3000 le premier jeudi, 12000 le deuxième, plus de 35000 à Bruxelles cette semaine. Beaucoup reviendront jeudi prochain. Ils disent vouloir continuer jusqu'à ce que les politiques, les adultes, prennent leurs appels au sérieux.
Voilà un reportage d'Isabelle Horry dans les rues de Bruxelles. Je dis que ça fait du bien de les entendre, ces jeunes, remonter comme des pendules. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
35 000 lycéens cette semaine en grève scolaire, quelques heures hein, pour la planète. Impressionnante mobilisation. Qu'est-ce que ça déclenche comme réaction dans le pays ?
Bien, du côté des politiques, en fait, pas grand-chose. Il n'y a pas d'intervention significative du Premier ministre belge ou du gouvernement en général. On les sent embarrassés. Quelques voix réclament bien une réduction plus ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas de consensus. Et pourtant, comme l'a rappelé Adélaïde au début du reportage, en décembre dernier, la Belgique n'a pas soutenu deux textes européens importants, l'un sur l'efficacité énergétique et l'autre sur les énergies renouvelables.
Pas trop de réactions politiques, dommage. Et du côté de ces jeunes, est-ce qu'au-delà de la manif, ils prennent les choses en main, ils mènent des actions concrètes pour le climat ?
Ah, c'est ça qui est intéressant. Il y a un vrai foisonnement d'interrogations, d'initiatives. Dans les écoles, il se passe quelque chose. Alors, je vais vous donner un exemple dont on a parlé au-delà des frontières de la Belgique. Au Collège Saint-Hubert, alors, c'est une école secondaire de Bruxelles, le directeur a écrit un mail aux élèves pour les inciter à réfléchir à leur propre attitude. Et résultat, les élèves de 5e, alors c'est l'équivalent de notre première, l'ont pris au mot et ils ont ciblé la machine qui vend des bouteilles d'eau dans l'école. Ils ont réussi à créer un buzz incroyable via les réseaux sociaux. Écoutez Esteban, l'un des instigateurs de tout ça.
Dans son mail, il nous invitait à la réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'école pour porter cette action de climat et qu'est-ce qu'on pouvait apporter à tout ça au lieu de juste aller à la marche. On s'est dit, mais en fait, le distributeur, c'est des bouteilles d'eau. Le plastique, c'est ce qui pollue le plus au monde. Et du coup, on s'est mis devant le distributeur et notamment, on a un peu fait du chahut. Et après, ensuite, on s'est dit, allez, bon, on se motive et on a créé des petites affiches qu'on a mis un peu dans toute l'école. Donc des affiches où il est marqué pour le climat, donc stop le plastique, arrêtez le plastique, pour notre planète. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas interdire aux gens d'acheter des bouteilles d'eau, mais c'est vrai que c'est mieux de les sensibiliser à ne plus acheter des bouteilles d'eau et plutôt utiliser une gourde en fait.
Et alors, ce distributeur, il a disparu ?
Et non, il est toujours là, après avoir été éteint par les élèves, rallumé par l'école, éteint, rallumé pendant quelques heures. Les lycéens ont découvert que la réalité était plus complexe que ce qu'ils pensaient. Alors d'abord, les bouteilles sont entièrement recyclées. Puis ensuite, ce sont leurs aînés des années précédentes qui ont demandé à l'école d'installer cette machine. Et puis enfin, il y a un contrat qui ne peut pas être défait du jour au lendemain. Pour autant, Raphaël Van Bruggen, le directeur, trouve très saine la mobilisation de ses élèves.
J'ai trouvé qu'il était intéressant que des élèves se mobilisent, et j'ai envie de dire enfin.
Pourquoi enfin ?
Mais parce qu'on parle souvent à leur propos d'une génération qui est finalement peu concernée. Et là, ils nous démontrent qu'ils sont capables de se mobiliser pour défendre une cause qui leur paraît juste et qui est juste. Cette action a eu le mérite en tout cas de poser une question, de poser une problématique. J'ai organisé et j'organise avec ces élèves de 5e un suivi. On réfléchit à l'installation de nouvelles fontaines à eau au sein de l'école et on verra ce qu'on fera de ce distributeur d'eau par la suite.
Voilà, c'est pas forcément la révolution tout de suite, mais des petits pas. Isabelle, comment réagissent les écoles au fait que le mouvement soit parti pour durer ?
Bon, il y a tout un éventail d'attitudes. Hein. Certaines écoles donnent des retenues aux enfants qui sèchent les cours, qui brossent, comme on dit ici. Ah. D'autres les encouragent. À Saint-Hubert, comme dans plusieurs établissements bruxellois, il va y avoir une tournante. Chaque jeudi, 30 terminales et 30 premières différents iront représenter l'école au manif. Ailleurs, avant de donner le feu vert, la direction demande aux candidats manifestants d'écrire une lettre expliquant pourquoi ils veulent se mobiliser pour le climat. L'idée, évidemment, c'est que tout cela ait un sens.
Les marches pour le climat se multiplient en Belgique, mais aussi en Suisse ou en Allemagne. Et en France, eh bien, pour l'instant, rien de tel. Les syndicats lycéens disent se préparer pour le 15 mars, annoncé comme la grande journée de mobilisation lycéenne pour le climat. Merci beaucoup Isabelle pour ce grand bol d'air. Sentir cette énergie fait du bien.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
L'Allemagne, justement, on y file dans un instant, pas pour y rencontrer des lycéens, mais cette fois des habitants de Berlin qui ont décidé de prendre en main leur production énergétique. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
En cette journée de mobilisation pour le climat et après l'énergie des jeunes bruxellois, c'est en Allemagne que l'on va maintenant. Toujours avec vous, Sophie Larmoyer.
Les citoyens allemands savent aussi se mobiliser. Leur pays a pris un retard important sur ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. L'Allemagne ne remplira pas ses engagements d'ici 2020 à cause de la pollution automobile et surtout des centrales à charbon et à lignite, ces centrales hyper polluantes qui sont au cœur d'un bras de fer interminable. Mais on a déjà perdu trop de temps, disent beaucoup de citoyens. Alors puisque la politique tarde à apporter une réponse au changement climatique, certains particuliers se retroussent les manches, comme à Berlin, dans cette résidence où les locataires rassemblés en coopérative ont décidé de devenir autonomes en électricité. Reportage signé Hélène Kohl.
Peter Malkowski accueille ses visiteurs en pantoufles. Le retraité propose un thé. Dans la cuisine, la radio tourne en arrière-fond. Il branche sa bouilloire avec un air satisfait. Depuis 7 ans, son électricité provient directement du toit de l'immeuble. 70 panneaux photovoltaïques tournés vers le sud produisent le courant pour toute la résidence. Un investissement que Peter et sa femme ne regrettent pas du tout.
C'est sûr. Surtout maintenant que nous sommes toutes les journées à la maison, on a besoin de beaucoup d'électricité pour faire le thé du petit déjeuner, pour cuisiner ou lancer le lave-vaisselle. On paye 25 centimes le kilowattheure quand le prix normal c'est plutôt 28-30 centimes.
Pour mener à bien leur projet, les 22 locataires de la Alfred Jung Strasse ont rejoint une coopérative citoyenne, la Stromkreis, dirigée par Jeannette Albrecht. Désormais, c'est elle qui gère la résidence et orchestre la révolution énergétique venue du bas.
Nous sommes les organisateurs techniques et les administrateurs de l'installation photovoltaïque. Ce sont les locataires qui prennent l'initiative. Après, demander des fonds d'investissement, contacter les architectes, gérer le chantier, parler avec les banques, tout ça c'est nous qui le faisons.
Les immeubles de 3 étages ont été isolés, on a fait installer du triple vitrage. Tout cela pour 500 euros seulement, souligne Peter Malkowski.
En nous inscrivant à la coopérative, c'est comme si on avait versé une sorte d'apport et on a vite rentabilisé. Mais ce n'était pas notre motivation première. Avant tout, on voulait limiter au maximum notre utilisation du réseau électrique de la ville. On avait en tête la défense de l'environnement si mal menée, l'envie d'arrêter d'utiliser ces énergies fossiles qui ont causé tant de dégâts, habiter et vivre de manière écologique et responsable, emménager dans un immeuble où nous avons notre mot à dire. C'était vraiment important pour nous.
Peter, toujours en pantoufles, descend maintenant à la cave, le cœur du système, la salle des machines.
Alors, ce câble, c'est l'arrivée du courant continu qui descend du toit depuis les panneaux photovoltaïques. Là, ce sont les transformateurs qui en font un courant alternatif qui va ensuite passer par les compteurs et être renvoyé en partie vers les appartements. Le reste est revendu au réseau électrique du secteur.
La résidence est reliée à une ligne à haute tension. La nuit, évidemment, ou les jours sans soleil, on consomme le courant du secteur, mais l'un dans l'autre. Chaque année, la petite résidence de l'ancien Berlin-Est engrange 7 000 euros. La coopérative décide où elle réinvestit cette somme. Elle s'occupe d'une 20aine de projets similaires dans la capitale allemande et on met tout en commun, insiste Jeannette Albrecht.
50% de l'électricité environ part dans le réseau et nous réinvestissons une partie des bénéfices dans le développement de nouvelles installations électriques. C'est vraiment l'idée de notre coopérative, de s'agrandir le plus possible. Pour l'automne, nous voulons installer des bornes de recharge de voitures électriques ici dans la résidence et ce serait en plus des appartements.
En 10 ans, on est passé de 60 à plus de 1 000 coopératives dans le pays. Les choses bougent enfin.
Il y a des lobbies au Bundestag en contact direct avec les partis politiques. Mais en même temps, les initiatives citoyennes se renforcent. Et oui, on leur rogne leur pouvoir. Il y a encore beaucoup de résistance, c'est normal dans un premier temps. Mais nous sommes bien organisés. Alors la politique voit que la volonté de changement est très forte et elle prend des décisions.
Selon les derniers sondages, les Verts sont autour de 20% d'intention de vote, deuxième parti d'Allemagne. Le gouvernement d'Angela Merkel a besoin de donner des gages à cette frange de la population qui sera décisive lors des prochaines élections. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Voilà encore des exemples de mobilisation citoyenne pour faire bouger les lignes. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante en Allemagne et on vous retrouve depuis Berlin où vous avez tourné ce reportage, mais c'est surtout dans les zones rurales que ce type de projet se développe, n'est-ce pas ?
Oui, en fait, depuis assez longtemps, hein, puisque ça a commencé dans les années 90, les premières éoliennes installées en Allemagne étaient d'ailleurs souvent le fruit d'une initiative commune de plusieurs agriculteurs, par exemple. Alors on se met ensemble pour baisser les coûts de départ et puis on profite en commun de l'électricité produite. Ensuite, dans les années 2000, il y a eu un grand programme d'installation de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, ce sont surtout les installations de fabrication de biomasse qui sont à la mode dans les campagnes. On fabrique du gaz naturel à partir des résidus de l'agriculture. Alors avec toujours une garantie des prix de revente fixés par l'État. Donc ces projets sont rentabilisés assez vite. Ouais. C'est même un placement recherché par les investisseurs ici. Il y a tout un business autour de cette idée très répandue, très à la mode en fait, de devenir autosuffisant en énergie.
Mais c'est une sorte de défiance quand même vis-à-vis de l'État, non ? Une manière de dire, comme la jeune suédoise Greta, vous ne faites pas grand-chose.
Oui, effectivement, si ces particuliers prennent les choses en main, qu'ils acceptent même d'en supporter le coût financier, ouais, c'est entre autres parce qu'ils estiment, oui, que l'État allemand n'est pas assez audacieux dans la lutte contre le changement climatique. Ça fait des années en fait qu'on parle d'arrêter les centrales à charbon, de construire des nouvelles lignes à haute tension pour transporter l'électricité entre les champs d'éoliennes qui sont plutôt dans le nord et les grandes industries qui elles sont au sud, mais rien ne se fait. Alors, ces coopératives permettent aux particuliers de produire sur place exactement ce dont ils ont besoin en choisissant le type d'énergie. J'ai pu aussi le constater avec un autre projet dans Berlin, c'est dans un centre de rééducation physique. Les kinés se sont mis ensemble pour installer un cogénérateur En fait, c'est une machine qui produit en même temps de l'électricité, donc pour la lumière, mm-hmm. et de la chaleur pour le chauffage. Ça, c'est important pour leurs salles de sport, leurs piscines, les saunas, tout ça. Et donc, avec ce système, eh bien, ils ont divisé par deux leur dépendance énergétique. Au total, l'an dernier, en Allemagne, les sources d'énergie verte ont représenté 40% de toute l'électricité produite, devant le charbon pour la première fois.
Oui, alors le charbon et la lignite comptent encore pour 38% de l'énergie produite dans le pays. Mais enfin, après des mois de tergiversation, l'Allemagne vient de décider d'éteindre ses centrales.
Oui, c'est la grande décision de cette fin de semaine, Sophie. On a enfin une date. En 2038, au plus tard, toutes les centrales à charbon devront avoir cessé de fonctionner ici. Alors comme pour la sortie du nucléaire, ça va se faire progressivement, mais d'ores et déjà, on le sait. Les installations les plus polluantes devront déjà commencer à être débranchées cette année et toutes éteintes en 2022. C'était un choix soutenu par 59% de la population et notamment les jeunes Allemands qui, eux aussi, ont manifesté un peu partout vendredi. Ils étaient 10 000 à Berlin, dans le même esprit que leurs copains de Bruxelles ou de Scandinavie. Mais que de temps perdu, Sophie. Cette fameuse commission charbon qui a finalement tranché samedi aux petites heures du matin, elle devait rendre son rapport l'été dernier. Les grandes industries et les régions minières ont retardé la décision en exerçant beaucoup de pression sur le gouvernement qui leur a offert une oreille bien attentive.
Ouais, en tout cas, c'est un dossier qu'on suit régulièrement grâce à vous dans les carnets et on continuera à le faire. Merci beaucoup Hélène, à très bientôt.
À bientôt Sophie.
Europe 1.
À suivre, la littérature étrangère, un livre dans le monde. Nicolas Carreau a jeté son dévolu sur une romancière britannique.
Europe 1, les carnets du monde.
Et maintenant, un livre dans le monde. C'est notre rendez-vous du dimanche avec la littérature étrangère, Sophie Larmoyer.
Le grand lecteur des carnets, notre guide parmi les dizaines de romans étrangers qui sortent chaque semaine, traduits en français, c'est Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Alors cette semaine, nous partons en Angleterre.
Avec Bella, l'héroïne du roman de Hélène Zahavi. Dirty Weekend, publié chez Libretto. C'est pas un roman en fait, c'est une gifle pour le lecteur. Alors accrochez-vous, Bella vit à Brighton, dans la banlieue de Londres. Elle a un peu abandonné, elle a lâché prise. Elle n'a plus goût à rien, elle se vit comme une erreur. Elle n'en peut plus de la vie, elle a bien songé au suicide, mais elle n'a pas envie de souffrir non plus, alors elle attend. Elle attend que ça passe. Elle avait appris à être une bonne perdante, écrit Hélène Zahavi. Perdre semblait lui convenir, c'était quelque chose de familier, comme une douleur qui a toujours été en vous et qui vous manquera. Si jamais un jour, elle disparaît.
Youpi, c'est réjouissant votre histoire.
Attendez, ça va se réveiller. Pour l'instant, Bella en a assez. Donc, elle essaye de passer inaperçue, qu'au moins personne ne l'embête. Mais même ça, ça foire. Elle habite un petit appartement et un jour, elle remarque que son voisin l'observe. Il ne se cache même pas, il la regarde par sa fenêtre, ostensiblement, comme s'il voulait qu'elle le voie. Ça l'ennuie, Bella, mais bon, que voulez-vous qu'elle fasse ? Aller l'engueuler, lui dire d'arrêter, appeler la police, puis quoi encore ? C'est Bella ! Elle n'a pas la force et c'est justement sa faiblesse éclatante qui attire le type d'en face.
Un prédateur ?
C'est le mot juste. Il y a psychopathe aussi. Oui. Un soir, elle est chez elle, il l'appelle, elle n'est même pas dans l'annuaire, il lui explique qu'il la surveille. Ensuite, il se fait plus menaçant et il conclut en lui disant de ne pas appeler la police, faute de quoi il la tuera.
Donc elle n'appelle pas.
Mais vous commencez à comprendre Bella. Mais un jour, elle est dans un parc, un midi, et soudain il apparaît physiquement à côté d'elle. Il la brutalise sans que les passants ne le voient. Et il lui promet de lui faire très mal un soir quand elle ne l'attendra pas.
Mais vous n'aviez pas dit qu'elle devait se réveiller un jour ?
Si, ça arrive. Non. Avant donc, elle plonge bien bien au fond. Ouais. Et un jour, je ne vous explique pas comment, elle décide de réagir. Bon. Elle a le choix entre être victime ou bourreau. Maintenant, elle a décidé de passer du côté obscur, ne serait-ce que pour sauver sa peau d'abord. Alors avant que l'autre psychopathe décide de venir chez elle en pleine nuit, elle prend les devants et un marteau. Elle est pleine d'une énergie nouvelle et c'est elle qui va lui faire mal, très très mal.
Et ensuite ?
Et ensuite, vous lirez parce que ça vaut le coup, mais elle ne s'arrêtera pas là. Vous voyez Dexter, le serial killer justicier, un tueur qui ne tue que des salauds. Eh bien, c'est un peu ça, Bella. Elle a décidé d'en finir avec les mâles qui ont été mal élevés et de leur donner une terrible leçon définitive.
C'est un manifeste féministe un peu extrême ?
Presque. En fait, l'éditeur a décidé de republier ce livre paru en 1991 à cause de l'actualité, MeToo, etc. Mais déjà à l'époque, en Angleterre, le livre n'était pas passé du tout inaperçu. Écoutez Eric Lairigoyen, l'éditeur.
C'était un succès de scandale, pas forcément à la base pour le contenu même de l'histoire, mais succès de scandale parce qu'il a été le dernier livre de littérature à faire l'objet d'une demande d'interdiction pour immoralisme à la Chambre des Lords lors de sa parution. Tout simplement parce que le livre mettait en scène une femme qui devenait serial killer, on va dire ça comme ça rapidement, et il était considéré comme inapproprié qu'une femme endosse un tel rôle. qui était jusqu'à présent dans cette littérature dévolue aux hommes. Une femme ne pouvait pas avoir des actions aussi violentes et aussi agressives dans un livre. Voilà, c'était l'objet.
Nicolas, ça veut dire que le bouquin a été censuré ?
Alors non, mais déjà rien que l'existence de cette procédure, ça fait quand même froid dans le dos pour la liberté littéraire.
91.
Liberté dont use et abuse Hélène Zahavi jusque dans son style. Ça va vite, très vite, on le lit d'une traite et en apnée.
C'est mordant, décapant, rapide, vif. Ça rebondit beaucoup, c'est très vigoureux, c'est un texte tonique. Elle assume absolument son propos parce que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Sans être dans un mouvement féministe et une lutte comme on peut la connaître aujourd'hui, c'était une personne qui de toute façon avait un propos sur les agressions sexuelles et sur tout ce dont on ne parlait pas en 1991 comme on peut en parler aujourd'hui, parce que la parole s'est libérée entre-temps, bien sûr.
Est-ce qu'elle publie toujours Hélène Zahavi ?
Alors oui, elle vit à Londres, elle écrit toujours, mais il faut bien admettre que seul ce livre a rencontré le succès. Il a été adapté au cinéma en 1993 par Michael Winner. L'éditeur m'a confié qu'une nouvelle adaptation était prévue. J'ai hâte de voir ça.
En attendant, on peut donc lire Dirty Weekend chez Libretto. Traduction ?
De Jean Hesch.
Eh bien, merci Nicolas.
Mais je vous en prie.
Europe 1.
Notre prochain reportage tient en trois lettres, V-O-X, Vox. C'est le nom du petit parti d'extrême droite qui est en train de monter en Espagne. Ses principales cibles, les indépendantistes, les immigrés et les femmes. On vous raconte tout dans quelques instants.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, nous sommes avec vous, Sophie Larmoyer. Et maintenant, à 13h30, un coup de projecteur vers l'un de nos partenaires européens, l'Espagne.
Il y a encore quelques mois, l'Espagne faisait figure d'exception en Europe. L'extrême droite y était inexistante. Cette exception a pris fin en décembre dernier lors des élections andalouses. Le parti ultranationaliste Vox a fait une entrée remarquée au Parlement régional et dans la foulée, il a facilité la formation d'un exécutif de droite. Le jeune parti, fondé par d'anciens membres du Parti populaire, a désormais le vent en poupe. Henri de la Guérie a voulu en savoir un peu plus sur Vox. Il a rencontré des sympathisants le week-end dernier dans la banlieue de Barcelone. Voici son reportage.
Un rond-point dans une banlieue paisible de Barcelone, un samedi matin de janvier à droite. Les barres d'immeubles d'un quartier populaire, à gauche, une zone pavillonnaire. C'est ici que les militants de Vox ont installé leur stand d'information. La mairie leur a interdit de tracter en centre-ville. Il fait très froid, mais ils ont une cinquantaine de sympathisants à discuter autour du stand, décoré d'un drapeau espagnol et d'une bannière verte aux couleurs de ce jeune parti d'extrême droite. Lola Sainte-Martine, responsable du mouvement dans la région, est sur ses gardes. Des groupes d'extrême gauche ont pris l'habitude de bizuter les sorties publiques de Vox.
Ici, on est à Saint-Mirens del Sort. On nous a changé trois fois l'emplacement de notre stand. On est au milieu d'un rond-point où absolument personne ne passe et on est entouré par quatre fourgons blindés de la police catalane. Depuis les élections andalouses, tout est devenu très compliqué pour nous. Je pense qu'on est un parti démocratique, pacifique et pourtant, on nous rend la vie impossible.
Vox est né il y a quelques années, fondé par un ancien cadre du Parti populaire, la droite espagnole, et un fonctionnaire de prison retenu en otage pendant un an et demi par l'organisation terroriste OTA. Mais c'est en décembre dernier, à l'occasion des élections andalouses, que le petit parti a réellement pris son envol en obtenant 11% des voix. Pour la première fois depuis la fin de la dictature, l'extrême droite fait son entrée dans les institutions. Ses électeurs viennent pour la plupart de la droite. Beaucoup estiment que l'ancien gouvernement conservateur de Mariano Rajoy n'a pas été assez ferme contre les indépendantistes catalans. José, la quarantaine, est infirmier.
Moi, j'ai voté pour Ciudadanos, également pour le Parti populaire. Mais aujourd'hui, l'option qui protège le mieux les intérêts des Espagnols, c'est Vox. Principalement parce qu'en Espagne, on a un gros problème avec notre organisation territoriale. On a 17 gouvernements autonomes. C'est une dépense qu'on ne peut plus assumer. Il y a une très mauvaise gestion. Ensuite, le contrôle de l'immigration est très important. Priorité aux gens d'ici. L'Espagne n'est pas un pays raciste. Et je pense qu'ils ont été très bien accueillis, mais bon, ça doit se terminer, on ne peut pas accueillir plus de monde.
L'Espagne est devenue la première porte d'entrée en Europe de l'immigration illégale. C'est le deuxième sujet sur lequel surfe l'extrême droite naissante. Les arrivées quotidiennes de bateaux ont fini par excéder une partie des Espagnols. Et même si ceci reste très minoritaire, Vox n'hésite pas à convoquer l'histoire. Dans une de ses vidéos, le leader Santiago Abascal avance à cheval au milieu d'un désert. La Reconquista commencera sur les terres andalouses, dit la voix off, une allusion évidente à la reconquête espagnole sur les musulmans au Moyen-Âge. Autre cible pour Vox, le mouvement féministe, le parti dont l'électorat est composé à 75% d'hommes, entend abroger la loi contre les violences de genre, un texte pionnier en Europe voté à l'unanimité à Madrid en 2004, un texte stigmatisant pour les hommes, répond Lola Sainte-Martine.
Vox réclame l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Vous, par exemple, eh bien, si votre femme vous accuse d'une fausse agression, vous allez passer 3 jours au cachot. C'est lamentable. Au lieu d'aspirer à l'égalité, les féministes aspirent avant tout à condamner l'homme pour le simple fait d'être un homme.
Dans la matinée, sur le stand de Vox, un collectif d'hommes divorcés qui ont perdu la garde de leurs enfants est venu apporter son soutien. Fort de son résultat en Andalousie, de bons sondages et grâce à ses propositions choc, l'extrême droite parvient à imposer ses thèmes dans les médias. Les télés sont en boucle et pendant ce temps-là, le parti remplit des salles. La semaine dernière, 4500 personnes sont venues écouter le leader de Vox à Saragosse. Antonio Amador, le numéro 2 du parti à Barcelone, est bien placé pour mesurer l'ascension du parti.
Remplir ces salles serait presque impossible pour les partis plus implantés que le nôtre. Tout ça, ça indique clairement que le phénomène est plus important que prévu. À Barcelone, on est passé de 80 à 1300 adhérents en seulement un an. On a le sentiment d'être en plein essor. Et comme on a pu le voir en Andalousie, on s'attend à de bons résultats.
À côté du stand, sur une table, on peut acheter des bracelets, des badges ou des pins aux couleurs du drapeau espagnol. Quand on demande aux sympathisants de se positionner sur un axe gauche-droite, tous répondent qu'ils sont à droite, oui, mais sûrement pas à l'extrême droite.
Non, je ne suis pas d'extrême droite, mais je considère qu'il doit y avoir un nationalisme ici. On méprise le drapeau espagnol, on méprise tout ce qui est espagnol, alors qu'on devrait être fier de notre histoire et de notre terre, au lieu de chercher à se séparer. Et en tout cas, je pense que Vox, ce sera un vote de sanction contre les autres partis. Podemos, c'était aussi un vote sanction de la part des gens de gauche. Et je crois que là, ce sera un peu la même chose avec Vox. Les gens du centre et de droite n'ont plus de complexe.
Plus de complexe et une ascension de Vox qui inquiète à droite. Dans cette ville de San Vicente, le leader de Ciudadanos a quitté son parti de centre droit. Il se présentera à la mairie au mois de mai prochain avec le soutien de Vox. À Saint-Vicent dels Horts, Henri de la Guérie, Europe 1.
Voilà pour le reportage et on retourne à Barcelone retrouver Henri de la Guérie. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
Alors on l'a dit, hein, c'est la fin d'une exception espagnole. Et franchement, cette percée de l'extrême droite, c'est une surprise même en Espagne. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a encore 6 mois, personne ou presque n'avait entendu parler de ce parti. Et d'ailleurs, Vox est un peu pris de court. Ouais. Aucun observateur ne misait sur un succès de l'extrême droite pour plusieurs raisons. D'abord, la dictature a pris fin il y a seulement 45 ans. Deuxièmement, les Espagnols sont plutôt ouverts vis-à-vis de l'immigration. On l'a vu en juin dernier avec l'Aquarius, car dans le passé, eux-mêmes ont souvent quitté leur pays. Et puis, le mouvement des indignés et sa version politique de gauche, Podemos, avait su canaliser la colère née de la crise économique. Enfin, le Parti populaire, cette grande formation de droite, ratissait large et l'électorat d'extrême droite était finalement absorbé dans ce grand parti.
Alors, on a compris en écoutant votre reportage que la crise catalane a été vraiment l'un des détonateurs de la poussée de Vox.
Oui, c'est la particularité de l'Espagne. La question territoriale est toujours au cœur des batailles idéologiques. Et c'est vrai que cette tentative de sécession catalane a exaspéré une bonne partie du pays. Mais c'est Vox qui, le premier, a mené la bataille juridique contre les dirigeants indépendantistes. Leur procès doit commencer dans 8 jours à Madrid et l'extrême droite occupera une place de choix. Écoutez les explications d'Andreu Vandened. C'est l'avocat d'Oriol Junqueras, l'ex-vice-président du gouvernement catalan, qui sera sur le banc des accusés.
Vox s'inscrit dans cette tendance depuis pas mal d'années qui consiste à profiter de ce qu'on appelle ici en Espagne l'accusation populaire. N'importe quel citoyen peut exercer cette accusation dans n'importe quelle procédure pénale pour se faire de la pub. De fait, Vox a très bien réussi ça en étant le premier à porter plainte et en prenant donc la tête de l'accusation.
Voilà, et en étant accusation populaire, l'extrême droite profite depuis plus d'1 an d'une forte visibilité médiatique. C'est une tribune idéale, vous en doutez, pour se faire entendre. Et d'ailleurs, Sophie, l'avocat de Vox qui sera présent au procès des indépendantistes, eh bien, n'est autre que le numéro 2 du parti.
Henri, cette croisade de Vox contre le féminisme que vous évoquiez aussi dans le reportage, elle a soulevé une vague d'indignation en Espagne. Le sujet est vraiment très sensible dans le pays, hein.
Oui, bien sûr. Souvenez-vous, hein, l'Espagne, c'est le premier pays au monde à avoir organisé l'année dernière cette grève générale des femmes. Mmh. La lutte contre les violences conjugales est l'un des rares sujets qui fait consensus ici. Et c'est cette unanimité que vient de rompre Vox en répétant que des milliers d'hommes seraient victimes de fausses plaintes. Le parti s'appuie sur des chiffres fantaisistes qui mettent en colère Rosario. Mmh. C'est une opposante qui se mobilise contre l'extrême droite espagnole.
C'est faux. Les fausses plaintes, c'est un 0,02%. Donc il y a un mensonge perpétuel et on a très très peur d'un recul. C'est pas beau ce qui se présente au niveau d'Andalousie, mais surtout ce qu'on a peur, c'est que ça revienne au niveau de l'Espagne.
Voilà, Rosario donc qui veut remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce sujet. Henri, la presse espagnole a révélé récemment que le parti Vox avait été financé à ses débuts par l'opposition iranienne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Oui, alors c'est très étonnant et la polémique commence à monter ici. L'opposition iranienne qui est en exil en France a fait du lobbying auprès de députés européens pour obtenir le retrait des Moudjahidines de la liste des organisations terroristes qu'ils ont réussi à faire en 2009 et ils ont voulu s'assurer le soutien d'un eurodéputé espagnol de droite qui était parti chez Vox en offrant à ce nouveau petit parti pas moins d'un million d'euros. Ça, c'était en 2013-2014.
Dernière question, les élections municipales et régionales se tiendront le 26 mai prochain en Espagne, le même jour que les européennes. Est-ce que les sondeurs chez vous en Espagne pensent que Vox va faire un bon score?
Oui, bah écoutez, les enquêtes sont très bonnes hein, pour Vox. L'extrême droite veut présenter des candidats un peu partout. Mmh. Vox obtiendra des députés dans les parlements régionaux, dans les conseils municipaux, c'est certain. Et Vox pourrait, comme en Andalousie, être le recours pour faciliter la formation de gouvernements de droite. Ici, vous savez, le Front républicain, comme en France, bien, ça n'existe pas.
On suivra tout ça avec vous sur Europe 1. Merci Henri pour toutes ces explications et à très vite dans les carnets.
À bientôt Sophie.
Europe 1.
Changement de décor, on va filer vers Louxor en Égypte qui regorge de sites archéologiques. Une femme franco-suisse a eu la très bonne idée d'y créer une école de tailleurs de pierre.
Europe 1, les carnets du monde.
Et oui, la suite des carnets avec vous, Sophie Larmoyer. Et nous voilà au pays des pharaons.
Emmanuel Macron est en Égypte pour une visite de 3 jours entre le Caire et Assouan. Et dans les carnets, on a décidé de ne pas suivre exactement le convoi officiel. On fait un détour par Louxor dans la vallée des rois. Je vous emmène visiter une école plutôt originale. Là-bas, pas de crayons ni de cahiers, mais des ciseaux, du granit et des marteaux. Bienvenue à l'école des tailleurs de pierre, comme au temps des pharaons. On emboîte le pas à la correspondante d'Europe 1 en Égypte, Ariane Lavrieux. Reportage.
Ils sont une dizaine debout, le dos courbé, à ciseler en rythme des blocs de pierre pour former une colonne. Leur professeur, Barakat Hamza, 24 ans, est un des premiers élèves de cette école créée il y a 5 ans.
C'est bien. Attention, ne t'éloigne pas du trait. Là, il a disparu. Il y a un petit éclat. Fais attention. On doit tailler le long du trait. Il doit rester visible une fois que c'est fini. Là, ce n'est pas parfait parce qu'il vient de commencer, il y a juste 2 mois. Moi, je suis sculpteur à la base. Je suis venu ici parce que je croyais qu'on allait faire des statues. En fait, je me suis rendu compte que c'était très différent. Ici, on mesure tout au millimètre près. On prend le compas, on crée des colonnes, des murs. C'est une nouvelle corde à mon arc.
Et vous utilisez la même pierre que les pharaons ?
Oui, nos pierres viennent de la même montagne que les pharaons.
Pendant toute leur année de formation, ces apprentis sont rémunérés par la fondation suisse Rossi de Montelera. Et c'est une franco-suisse, Marie-Christine Gerbert, qui a posé la première pierre de cette école. Aussi vice-consul, elle habite depuis près de 20 ans à Louxor et a vu tous les archéologues faire appel à des artisans étrangers pour leur chantier de restauration, alors qu'il y a dans la vallée des milliers d'Égyptiens sans emploi.
L'idée m'est venue en étant proche un peu des archéologues, égyptologues en place ici, qui, comme on le sait, ont de plus en plus de peine à trouver des fonds. Et surtout, c'était la tristesse de voir tous ces jeunes, ces milliers de jeunes qui sont ici et qui n'ont pas de travail. Parce que à part le tourisme, on n'a rien ici, aucune industrie, rien n'a été jamais développé. Donc voilà, l'idée est née comme ça, en me disant ça va arranger tout le monde, ça va donner du travail à des jeunes, ça va aussi les sensibiliser justement à la conservation de leur patrimoine. Qui plus est ici, on baigne, on est au milieu des temples et des tombes où on peut estimer le travail à venir encore à 5000 ans, on peut dire. On sait très bien qu'il y a encore beaucoup à faire et à découvrir. Et une fois qu'on a découvert, il faut maintenir et restaurer, bien sûr. Donc c'est vraiment un métier du présent et de l'avenir, en tout cas ici.
Après plusieurs années de chômage, Ahmed Youssef vient tout juste de trouver du travail grâce à son diplôme de tailleur de pierre sur le site touristique et archéologique de Medinet Abou, où une équipe américaine vient de restaurer, mettre en valeur les temples d'Amon et de Ramsès III.
Quand les Romains sont arrivés ici, ils ont abîmé le temple pour graver leur dieu à la place. Et ils ont pris des pierres pour construire une église. Nous, on a reconstruit l'allée pavée détruite par les Romains. Avant, cette zone était inaccessible. Aujourd'hui, les touristes peuvent venir dans ce coin du temple. On a travaillé aussi sur cette arche dont plusieurs pierres étaient très dégradées par le temps et l'eau. Donc, on a taillé de gros blocs de pierre pour reconstruire cette porte. C'était pas facile, il a fallu y aller au marteau-piqueur, mais ça valait le coup. Avant, je travaillais dans des hôtels avec les touristes. Mais après la révolution, je suis resté bloqué à la maison, il n'y avait plus de travail. Maintenant, avec la taille de pierre, on a bien plus d'opportunités, parce que les archéologues viennent tous les hivers.
Maintenant que ce chantier est terminé, Ahmed et Barakat rêvent de construire leur propre musée en imitant le style des temples pharaoniques pour, disent-ils, attirer une nouvelle vague de touristes dans 5000 ans. À Louxor, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Ah, c'est fascinant hein, de se dire que ce sont les mêmes pierres que celles qu'utilisaient les pharaons. Et quelle bonne idée, cette école de tailleurs de pierre. Bonjour Ariane Lavrieux.
Bonjour.
On vous retrouve cette fois en direct du Caire, Ariane, où vous êtes rentrée. En attendant la vague de touristes dans 5000 ans, la chute du tourisme a été dramatique après la révolution de 2011. C'était vraiment un secteur qui embauchait beaucoup dans la vallée du Nil. Est-ce que la situation s'est améliorée là-bas ?
Oui, hein, à Louxor et à Assouan, c'était très visible. La plupart des hôtels étaient complets pendant les vacances de Noël. J'ai vu des dizaines de bateaux de croisière chaque jour sur le Nil. En moyenne, le nombre de visiteurs a bondi de 40% en 2018. Wow. On n'est pas revenu au niveau d'avant la révolution de 2011, mais beaucoup de jeunes sans diplôme ont pu retrouver du travail. Le problème, c'est que le coût de la vie, les taxes, les prix ont explosé, pas les salaires. Un employé d'hôtel gagne 100 euros par mois. Bah, avec ça, on peut difficilement se loger et se nourrir. Donc, malgré l'embellie touristique, beaucoup d'Égyptiens sont encore en mode serrage de ceinture.
Ouais. Le président Abdel Fattah al-Sissi a été réélu il y a un an, après avoir écarté tous les autres candidats opposants. Est-ce qu'il y a un mécontentement qui monte face à ces difficultés économiques du quotidien ?
Il n'y a pas de manifestation hein, parce qu'elles sont interdites et mènent directement à la prison. D'ailleurs, l'Égypte a restreint la vente de gilets jaunes depuis décembre. Il faut avoir une autorisation de la police. Et deux personnes ont été arrêtées, emprisonnées parce qu'elles parlaient des gilets jaunes sur Facebook. Donc publiquement, il ne se passe rien. Mais cet hiver, je me suis pas mal baladée dans le pays. Et à chaque fois, tous les chauffeurs de taxi, commerçants m'ont parlé des gilets jaunes français. Ils suivaient de très près ces manifestations parce que leurs revendications finalement, aussi bizarre que cela paraisse, font écho à leur situation ici. Par exemple, le prix de l'essence va augmenter dans quelques mois, pas à cause des taxes, mais à cause des mesures d'austérité imposées par le FMI. Et un épicier m'a dit, vous au moins, vous avez un civil à la tête de l'État, nous, on ne peut rien dire.
Et Pascal Sissi, je le rappelle, est un ancien maréchal. Et peut-être d'ailleurs qu'il parlera lui aussi des gilets jaunes avec Emmanuel Macron, puisqu'il l'accueille aujourd'hui au Caire pour une visite de 3 jours. Cette visite du président français est critiquée par des ONG, des chercheurs qui l'accusent de venir soutenir un régime plus répressif que le précédent, que celui de Moubarak.
Oui, même l'ONU le dit, hein, la répression n'a jamais été aussi massive. 15 000 civils jugés dans des cours martiales, 60 000 prisonniers politiques. Mais cette étiquette est très large, hein, car par exemple, vous avez un humoriste célèbre sur Internet qui est en prison depuis 8 mois et attend son procès pour avoir diffusé de fausses nouvelles. La féministe dont je vous parlais en septembre, celle qui avait dénoncé le harcèlement sexuel dont elle était victime, a été condamnée en appel à 2 ans de prison. Donc, toute forme de critique est interdite. La France le sait d'autant mieux qu'une entreprise française, Naval Group, travaille avec l'armée sur un chantier à Alexandrie. Il y avait eu une grève, les syndicalistes égyptiens ont été arrêtés, les grévistes licenciés et la diplomatie française a du mal à convaincre l'Égypte de respecter leurs droits.
Alors, pourtant, la France a des relations très étroites avec l'Égypte depuis le retour de l'armée au pouvoir et la vente de 8 milliards de contrats d'armement. Est-ce qu'elle agit sur le terrain des droits de l'homme ?
Bah, jusqu'à présent, François Hollande, comme Emmanuel Macron, avait des discussions seulement en privé sur les droits de l'homme. Ça a souvent été la position officielle de la France pour ne pas froisser l'Égypte, qui est considérée comme un îlot de stabilité dans la région. À huis clos, les présidents successifs ont plaidé pour la libération de quelques journalistes activistes. Mais d'après mes informations, cette stratégie pourrait changer parce que les résultats sont maigres et surtout, les critiques sont de plus en plus vives à l'égard de la France. C'est une alliance qui coûte cher politiquement. Donc, lors de cette visite au Caire, Emmanuel Macron veut insister sur les droits de l'homme de manière beaucoup plus officielle. Ça serait un changement de cap, même s'il y a toujours la même volonté de vendre des armements à l'Égypte et de continuer de faire des affaires.
Côté politique égyptienne, Abdel Fattah al-Sissi a été réélu pour 4 ans. Donc, selon la Constitution, il devrait laisser sa place en 2022.
Oui, mais une constitution, ça se change. Des avocats pro-régime ont déposé des recours dans ce sens pour que le président soit éligible indéfiniment. Et selon un site d'investigation ici, le fils de Sissi lui-même plancherait avec les services de renseignement sur un projet d'amendement pour prolonger le mandat de son père de 2 ans. Donc en réaction, 1000 personnalités ont signé une pétition contre tout changement de la constitution.
Affaire à surveiller donc. Et il y a en tout cas un signe de mauvaise santé de la démocratie dans cette Égypte d'Al-Sissi. Ce sont les dizaines de blogueurs et de journalistes qui sont derrière les barreaux. Le pays a chuté au 161e rang mondial dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Merci beaucoup Ariane, notamment pour ce beau reportage sur l'école de taille de pierre à Louxor, l'une des nombreuses faces positives de ce pays. Il y en a beaucoup. Merci, à bientôt.
Merci, à très bientôt.
Europe 1.
Et on fait environ 2600 km vers l'est, car dans un instant, on appelle Joseph, toujours en vadrouille du côté d'Oman. C'est notre petit voyage en Autistan.
Europe 1, les carnets du monde.
13h53, c'est parti pour un petit voyage en Autistan avec vous, Sophie Larmoyer et Joseph Chovanec.
C'est le grand voyageur de l'équipe, Joseph. D'ailleurs, on se parle à nouveau par Skype. Voyageur, autiste et philosophe. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous êtes toujours à Oman. Et comme souvent, c'est le désert qui vous a inspiré cette semaine.
Mais oui, Sophie, parce que quand on voyage, ce ne sont pas que des personnes que l'on rencontre. On rencontre aussi les traces de leur vie, des maisons abandonnées, parfois depuis très longtemps, des lieux du silence où on ressent quelque chose de très particulier, un sentiment qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Et c'est au désert, en général, que ces traces sont les mieux conservées. Hier, j'ai visité au pied d'une montagne, à 3 km de chez moi, des maisons abandonnées dans le désert. On jurerait qu'elles n'ont été délaissé qu'il y a quelques heures à peine. Il y a ce climat sec qui préserve tout. Dans l'une des maisons, sur le mur, une inscription peinte à l'encre datait l'abandon de la demeure à il y a 54 ans. Et dans les déserts froids, les choses sont tout aussi saisissantes. L'été dernier, j'ai passé une journée dans la ville soviétique abandonnée de Pyramida. C'est sur les îles Svalbard, à environ 1000 km seulement du pôle Nord.
Ouais, c'est une ville qui date de l'ère soviétique, mais qui est encore debout.
Oui, tout à fait. C'était une ville minière importante il y a 30 ou 40 ans. Mais depuis des décennies, seuls errent dans ces lieux désolés les fantômes des mineurs. Mmh. Dans la cantine de la ville, le planning des repas est encore affiché sur le mur. Il y a des fours, des plaques de cuisson qui semblent prêtes à être actionnées, pour peu que l'on se hasarde à appuyer sur un interrupteur qui devrait être dans un musée. Il y a une grande salle de bal et dedans des plantes momifiées, une salle de sport, et sous un imposant buste de Lénine, des ballons qui reposent sur le sol dégonflé à moitié. Et qui sait quelle fut l'ultime musique jouée par le piano à l'angle, peut-être le plus septentrional des pianos du monde, il y a bien des décennies déjà.
Ah, c'est une vision étrange et sans doute fascinante que vous décrivez là.
Oui, inoubliable même. Et le week-end dernier, j'ai eu le même sentiment, l'impression de revivre cela, de revoir les images, mais à l'autre bout du monde, à savoir aux Maldives. Alors la plupart des touristes qui viennent aux Maldives viennent pour barboter à la plage de leur resort. Mais les autistes viennent pour faire la chasse au rare dictionnaire de Dhivehi, qui est la langue locale. Et l'un des secrets peu connus des Maldives, c'est qu'il y a une île aux déchets, un Tilafushi de son vrai nom. Il a été décidé de sacrifier acidifier une île des Maldives en y déversant à peu près tous les déchets du pays. Et quand on regarde attentivement, on peut apercevoir cette île depuis la capitale Malais. À l'origine, sur cette île des déchets, il y avait des maisons, des immeubles. Et ils sont là encore physiquement, pour peu qu'on s'approche en bateau, par exemple. Mais ce ne sont plus que des fantômes de maisons, parce que la situation apocalyptique de l'île est incompatible avec la vie humaine. Un ancien résident m'a expliqué qu'on y trouvait des déchets de l'époque de son grand-père. Et malgré les prix délirants de l'immobilier à Malais, la capitale, il est biologiquement impossible de vivre dans les maisons vides de Trilafushi.
Ah, pour le coup, Joseph, c'est déprimant cette vision-là.
Oui, déprimant, et ça donne à réfléchir sur l'héritage de nos existences modernes, des montagnes de déchets, des demeures fantômes. Ouais. Peut-être on pourrait suivre le dicton de Hivehi, la langue des Maldives.
Donc,
pour manger ou pour savourer la mangrove locale, il faut d'abord la débarrasser de son amertume. C'est un long et pénible processus qui exige des efforts, mais le résultat est savoureux. Et pour ma part, je reviens des Maldives avec le trésor le plus savoureux, deux dictionnaires de Divéhi, déniché après un long parcours du combattant, une longue chasse au trésor en plein Malais.
Et je vous confirme que vous ne devez pas être très nombreux à aller chercher ces trésors, effectivement, deux dictionnaires de Divéhi. Merci beaucoup, Joseph. On vous retrouve dimanche prochain.
À très bientôt. Merci.
Europe 1.
Merci de nous avoir accompagnés. On referme les carnets du monde dont vous pouvez réécouter tous les grands reportages grâce au podcast. Vous le trouverez sur europe1.fr à la page des carnets. Merci à ma fine équipe, Sophie Mallier à la réalisation et Florence Gémalac qui m'aide à préparer l'émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 13h, sans faute. D'ici là, on vous prépare plein de nouveaux périples avec les reporters d'Europe 1. Portez-vous bien.